Qu'entendons-nous en Occitanie et dans le monde? La réponse à cette question va permettre de mesurer les conséquences de ce que l'on entend. Explication aussi avec votre invitée Isabelle Duché.
Comment l'homme s'adapte à son environnement sonore dans le monde et particulièrement en Occitanie, c'est l'objet du projet Earthscape auquel les auditeurs de Radio Présence sont invités à participer. Et je reçois pour cela Patricia Balaresque. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de recherche en biologie et génomique évolutive au CNRS et donc vous êtes chargée de ce projet. Quel est le but précisément de ce projet Earthscape ?
Alors, le but du projet, c'est comprendre et identifier les facteurs qui modèlent l'audition chez l'homme, en France, mais également dans le monde.
Et pourquoi vous avez voulu comprendre ces phénomènes ?
Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous ne savons que très peu de choses. Nous savons donc que l'âge influence l'audition, mais nous n'avons pas vraiment d'idée des autres facteurs, qu'ils soient environnementaux, culturels et également d'autres facteurs individuels comme le sexe hein, ou la latéralité, si ces autres facteurs vont être amenés à modeler l'audition. Et la deuxième raison, c'est que l'audition est un des traits qui se dégrade le plus vite pour l'espèce humaine. Donc l'OMS essaye de donner des estimations des pertes auditives et des... Et éventuellement d'autres pathologies auditives, comme par exemple la survenue d'acouphènes ou autres, sans vraiment y arriver. Donc les chiffres s'emballent d'année en année. Donc on est passé de 700 millions de personnes qui seraient touchées en 2050 à 2,5 milliards en 2 ans. Donc on a vraiment beaucoup de mal à évaluer l'état de la population aujourd'hui, parce que nous n'avons que très peu d'informations en fait sur la population saine aujourd'hui.
Donc ce projet, il est mondial. Vous me disiez avant cet entretien que vous alliez finalement dans différents pays pour évaluer justement cette adaptation de l'homme à son environnement sonore. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu les endroits où vous avez déjà été ?
Alors nous avons, il y a quelques années de cela, commencé par exploiter des populations, exploiter donc la possibilité d'enregistrer ces différences de sensibilité auditive dans des populations très différentes. Donc nous avons commencé par des steppes en Ouzbékistan, parce que les milieux sont très ouverts. Donc on sait que la propagation du son et on sait que la réponse auditive, il devrait y avoir probablement un lien entre les deux, entre comment le son se propage et qu'est-ce qu'en fait l'oreille. Donc on a choisi des milieux très contrastés. Donc de ces steppes, nous leur avons opposé des milieux extrêmement fermés comme les forêts équatoriales. Donc nous sommes allés échantillonner au Gabon, deux populations d'origine différente, des faons et des pygmées. Et nous avons continué par une population de langue à clic en Afrique du Sud, les Kosa. Et ensuite, bien sûr, on a également étudié des populations plus classiques, on va dire, donc d'origine européenne et d'ascendance européenne. Donc, en développant une collaboration avec Leicester en Angleterre. Et nous avons commencé à faire des analyses préliminaires sur ces populations, chez qui nous avons donc mesuré la sensibilité auditive de manière la plus objective possible. Et donc les premiers résultats nous sont apparus comme très intéressants et on a donc voulu continuer en fait à creuser cette question.
Et alors, est-ce que vous pouvez quand même nous dévoiler un petit peu quels étaient ces premiers résultats et puis ça va nous permettre de comprendre la suite ?
Alors dans les résultats qui n'étaient pas très attendus, donc on pensait avoir comme premier facteur de différenciation entre individus, donc l'âge, puisque c'est un des facteurs bien sûr les plus étudiés en Europe, en tout cas, et dans les pays d'ascendance européenne. Et le premier facteur qui est ressorti, c'était le sexe. Donc on a des différences entre hommes et femmes assez fortes, a priori. Donc elles restent vraiment à confirmer.
Dans quel sens, alors ?
Alors, les femmes sont plus sensibles sur la totalité du spectre que les hommes. Et donc là, bon, on a des résultats sur 200-300 individus, mais il faut qu'on continue à augmenter l'échantillon pour avoir quelque chose de plus robuste. Voilà, donc ça c'était le premier résultat qui est sorti, qui nous a vraiment surpris. Donc on avait quelques petits indices dans la littérature disant qu'effectivement les femmes pouvaient percevoir les sons de façon plus exacerbée que les hommes sur certaines fréquences. Et là, notre étude a montré que c'était vraiment sur la totalité du spectre. Donc, ce résultat, il rejoignait un article que nous avions, une étude à laquelle j'avais participé sur la forme de la cochlée, parce qu'on avait montré que la forme de la cochlée entre hommes et femmes était différente.
La cochlée, c'est ?
La cochlée, c'est l'oreille interne. C'est l'oreille là où interne. Sont intégrées les fréquences dans votre, dans votre
dans
oreille.
L'oreille. Ouais.
Et donc, bon, c'était quand même un résultat qui était cohérent avec les premiers résultats qu'on avait, par ailleurs. Et voilà, donc ça, c'était le premier facteur de cette première étude. Et le deuxième facteur semblait être une influence de l'environnement, puisqu'on avait des niveaux de sensibilité, de réponse de l'oreille différentes en fonction des milieux.
Donc, pour mesurer maintenant dans ce projet AirScape, pour mesurer notamment l'impact de l'environnement, vous me disiez que vous aviez, dans notre région, disposé des micros un petit peu, enfin, dans différents endroits.
Tout à fait. Alors, les résultats qu'on a pu obtenir jusqu'à maintenant, c'était des résultats qui étaient liés à un paysage, on va dire, au sens vraiment très général du terme. C'est-à-dire, est-ce qu'un milieu possède un fort couvert végétal, à quelle altitude nous nous plaçons ? Donc, ce sont des éléments très basiques du paysage. Mais nous savons pas à l'heure actuelle, quelle est la relation qui existe entre un paysage et un paysage sonore. Donc là, le projet AirScape, il espère pouvoir apporter une réponse à cette question, c'est-à-dire que, compte tenu de ce qu'on sait d'un paysage, est-ce qu'avec ce paysage va également une caractéristique du paysage sonore. Alors pour ça, on place des capteurs en continu pendant un an. Donc nous en avons placé 4 sur la région toulousaine, 4 en Ariège, 4 dans les Hautes-Pyrénées. Et l'idée, c'est de toujours avoir le même protocole. Donc on place un capteur dans des endroits très anthropisé, donc des rues assez passantes, pas nécessairement des boulevards, mais des rues assez passantes, des endroits un petit peu plus résidentiels. Et ensuite, on va s'éloigner, on va faire un gradient d'anthropisation, comme ça, jusqu'à des milieux plus isolés, que ce soit dans la plaine du Lauragais pour Toulouse, vraiment aux portes du Lauragais, ou en montant dans les vallées, par exemple,
En Ariège.
En Ariège ou dans les Hautes-Pyrénées, voilà. Et donc, on va enregistrer ce son pendant un an, toutes les 2 minutes, toutes les 20 minutes, pardon, en se décalant pour couvrir toutes les plages horaires. Et donc, au bout de 3 mois, on a à peu près 3000 enregistrements.
Oui, ça fait un sacré voilà. nombre de données, là.
Et donc, voilà, au bout d'un an, donc 12 000, et donc par capteur. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on va essayer de regarder qu'est-ce que contiennent, en fait, ces enregistrements. Donc, en traitant, le son se traite en image. Donc, le son est converti en image. Et on essaie de reconnaître des schémas que nous avons dans des banques préenregistrées. Et donc, cette partie-là du projet, c'est Jérôme Sueur qui la mène au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, voilà, avec qui nous sommes collaborateurs.
Alors, il y a non seulement ces capteurs qui sont installés donc, dans notre région, il y a aussi ce qui est aussi un petit peu l'objet de notre entretien ce matin, c'est cette volonté d'interroger directement les personnes. Vous cherchez à en interroger 2500. Quel est le profil précis des personnes que vous souhaitez interroger, Patricia Balaresque?
Alors, nous souhaiterions donc interroger des personnes qui ont entre 18 et 60 ans, qui sont donc nées en Occitanie, de parents nés en Occitanie et de préférence des 4 grands-parents nés en Occitanie également.
Ça réduit le champ.
Ça réduit le champ, tout à fait, mais ils existent, je le sais. Donc, pourquoi ? Pour contrôler le fond génétique au maximum. Et donc, l'autre chose, c'est que nous cherchons des personnes qui sont, a priori, qui ne présentent pas de pathologies, qui ont déjà été diagnostiquées.
Pathologie de l'oreille.
De l'oreille, tout à fait. Donc voilà, qui ne sont pas appareillés, ainsi de suite. Pour pouvoir établir une diversité saine, en fait. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir au quotidien, une personne qui est saine d'un point de vue de l'audition, qu'est-ce qu'elle entend et quelles sont les différences entre personnes, déjà, voilà, avant de rentrer dans la pathologie.
Comment va se passer ce test ?
Alors, c'est une série d'ateliers. Donc, nous recevons les personnes au laboratoire ou dans les lieux qui sont dédiés. Nous contrôlons avec elles donc ces renseignements-là. Une fois que c'est fait, donc on remplit
donc, l'âge, les ascendants,
l'âge,
et puis,
voilà, tout à fait.
La santé, on va dire.
Voilà. Donc, nous avons un questionnaire. Hein, la première formulaire à remplir, c'est un formulaire de consentement éclairé. Donc, ce projet, il a fait l'objet d'un passage devant un comité d'éthique nationale. Donc, on commence déjà par présenter tous les éléments à la personne qui va participer pour lui expliquer comment les données vont être assez rapidement codées et il va devenir donc anonyme dans cette étude. Donc ça c'est pour la première étape. Ensuite on va lui faire remplir un questionnaire très détaillé sur donc ses habitudes, quelle langue parle-t-il, s'il continue à parler occitan, dans quel cas, ainsi de suite. Ensuite on va faire un test de salive pour pouvoir extraire l'ADN. On va faire un test de voix également, parce qu'on va essayer de mettre en correspondance les sonorités des langues avec la sensibilité auditive. Ensuite, bien sûr, il va passer un test d'audition. C'est un test complètement indolore et objectif, puisque c'est un test qui fait appel aux auto-émissions acoustiques. Donc, on envoie en fait un signal dans l'oreille et l'oreille, quand elle est stimulée, elle répond. Et à partir de cette réponse, on reconstruit la sensibilité auditive de l'individu sans lui demander quoi que ce soit.
Donc en fait, les sons parviennent dans l'oreille de la personne, mais après la personne va dire j'entends, j'entends pas.
Elle ne dit rien.
Elle ne dit rien.
Elle ne dit rien.
Et vous avez des capteurs et vous pouvez mesurer ce
En fait, c'est ça. Dans cet écouteur, il y a un émetteur et un récepteur. C'est donc ça. L'émetteur va envoyer du son. L'oreille excitée sur la gamme de fréquences qu'on entend répond. Et cette réponse, nous, on l'enregistre en retour. Plus elle va répondre de façon forte, plus l'oreille est sensible. Et moins elle répond, moins elle est sensible. Et l'ordinateur reconstruit, hein, le logiciel reconstruit, en fait, cette courbe de sensibilité.
Et comment l'oreille répond ?
Alors,
c'est un frémissement,
Alors, l'oreille, déjà, quand le son va passer dans l'oreille interne, ce sont des cils qui vont battre. Au passage de l'onde, ce sont des cils qui vont battre. Et en battant, il va y avoir une cascade moléculaire qui va se produire, hein, c'est-à-dire qu'on va avoir des ions qui vont se propager à l'intérieur de la cellule, qui vont créer un signal électrique qui va dire en fait au cerveau, attention, maintenant il y a une onde de cette fréquence-là qui passe et c'est ça que tu es en train d'entendre. Donc nous traitons essentiellement la réponse physiologique de l'oreille. Nous ne traitons pas la capacité du cerveau à post-traiter cette information.
D'accord.
Donc ça, c'est important. C'est pour ça que c'est un projet sur la sensibilité de l'oreille et pas la perception de l'individu, très différent.
Ce qui donnerait un spectre supplémentaire.
Très différent, probablement. Oui.
Vous avez parlé de prélèvement ADN. Il faudrait quand même peut-être qu'on rassure nos auditeurs pour qu'ils se disent que leurs données ne vont pas partir non plus dans la nature.
Tout à fait. Donc, on est en France. On est quand même régi par des lois assez strictes de ce point de vue-là. Donc l'ADN donc, qui est collecté va donc être tout de suite anonymisé, c'est-à-dire au moment du prélèvement on va tout de suite prendre un code, donc on va lui attribuer un code et nous n'allons bien sûr séquencer que certaines parties du génome, enfin en tout cas analyser certaines parties du génome. Et voilà, donc nous sommes sous le couvert d'un RGPD particulier, pas d'inquiétude.
Une fois que vous aurez obtenu tous ces résultats, toutes ces données, Patricia Palaresque, qu'est-ce qu'elles deviennent, enfin, qu'est-ce que vous allez pouvoir en conclure ? Est-ce qu'il va y avoir des recherches sur, je ne sais pas, des appareils auditifs, sur une meilleure protection aussi dans le travail ?
Tout à fait. L'idée, c'est d'avoir quand même une image globale de l'audition et à partir de là, on va pouvoir donner éventuellement émettre des préconisations sur à quel âge, par exemple, commencer à détecter les pertes auditives. Aujourd'hui, on détecte les pertes auditives très tard, c'est-à-dire que les gens consultent un ORL quand ils pensent déjà qu'ils ont perdu de l'audition. Donc, est-ce que les profils sont les mêmes pour les hommes, pour les femmes, pour des gens qui habitent dans des milieux très différents ? Donc, on va pouvoir orienter, en fait, je pense, en tout cas, donner des informations sur ces éléments-là. Et également, faire énormément de prévention. Là, je pense que là, on est à un niveau assez critique, hein, de ce point de vue-là. Les gens ne sont pas éduqués à se protéger de l'audition. Donc, ce projet nous permet également d'être au contact de populations plus jeunes et de faire de la prévention par le biais des médias également. Et ces résultats devraient nous permettre également de toucher ces cibles et de pouvoir accélérer la prise de conscience, en fait. Voilà.
Donc voilà, si vous voulez participer à cette grande étude qui permettra de mieux comprendre ce que nous entendons en fonction de notre environnement et puis aussi de protéger l'audition des générations futures, il y a 4 rendez-vous, 2 en Ariège le 22 et 23 avril, donc le 22 à Housse, le 23 à Moulis, et puis 2 autres rendez-vous à Toulouse, à l'université Paul Sabatier, les 31 mai et 1er juin. Et puis, si vous avez besoin de poser vos questions, il y a un mail earscape@serviceaupluriel.cnrs.fr. Merci beaucoup, Patricia Ballarès, d'être venue ce matin nous présenter cette étude.
C'était avec joie. Merci beaucoup.